va falloir faire le ménage peut-être entre la vérité de la religion et tout ce que les hommes ont rajouté de folklore par-dessus. Voilà. Et là-dessus, tous les auteurs vont reprendre ces idées jusqu'à les synthétiser autour de l'opposition entre opinion et vérité. Voilà. Et donc, il peut y avoir une vérité dans la religion. Husserl ne dit pas que c'est impossible, mais à la question, ça c'est plutôt de l'ordre d'une déclaration orale, j'ai jamais retrouvé le texte. Quand on lui demandait pourquoi il était athée, il répondait, mais je ne dis pas que le phénomène de Dieu est impossible, je demande juste, pardon, je me suis mal exprimé, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je demande juste à en voir le phénomène. Voilà. C'est-à-dire, si Dieu doit se phénoménaliser, on trouvera une modalité intentionnelle spécifique ou non d'ailleurs pour l'apercevoir. Ça veut dire concrètement, il ne s'est jamais présenté à moi ou, selon lui, les modes d'apparition qu'on a pu en donner dans des descriptions, dans des récits, dans la Bible, etc., ne se présentent pas d'une façon telle qu'il est évident que c'est bien un Dieu, c'est-à-dire une réalité à part entière et distincte, qui se soit présenté. Voilà. Mais ce n'est pas non plus un interdit. Il n'y a pas une ligne chez Husserl qui dise il est évident que Dieu n'existe pas. Voilà. Donc ça, c'était pour vous commenter cette notion d'infini. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. Alors, une dernière chose qui fait partie des lignes que nous n'avons pas commentées, mais qui ne vous étonnera pas, c'est que ce modèle est aussi celui du désintéressement. Voilà. Et c'est pour ça que Hamza, tout à l'heure, je faisait la différence avec une idéologie actuelle de l'application et de la fécondité technique, hein, qui serait le critère principal. Dans ce projet grec, il y a d'abord le projet de savoir pour... Pourquoi? Pour connaître, voilà. Savoir pour savoir. C'est ce qu'Aristote appelle une praxis. Quand le but d'une activité est contenu en elle-même. Ah oui, alors, au fond, ils ne vont rien voir, sinon... Hop là. Praxis, voilà. Par différence avec ça, vous connaissez mieux. Ah, j'ai pris. Poé 6. Poé. Oui, alors c'est du grec transcrit, je sais plus si j'y suis. Oui, c'est ça. Poé 6, à savoir une activité qui a sa fin en dehors d'elle-même. Donc, l'exemple d'Aristote, c'est la construction navale. Quand vous construisez un bateau. Vous construisez, ta, 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 puis quand le bateau est construit, vous arrêtez de construire. Bon. Et donc ça prouve que votre activité avait pour but quelque chose qui, quand elle est là, cette chose, invalide toute finalité à l'activité elle-même. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin. Donc c'était une activité temporaire en vue de quelque chose qui était extérieur à l'activité, c'est-à-dire son résultat. Alors que dans la praxis, même quand on a des résultats à l'intérieur de cette activité, on continue. Comme le savoir, on ne s'arrête pas de chercher. Alors, on pourrait aujourd'hui s'étonner de cette définition de savoir, pour qualifier le projet grec, parce qu'on s'est tellement habitué depuis quelques décennies à voir dans un savoir quelque chose de bien s'il s'applique, s'il se vérifie. Et il est vrai que le modèle de l'expérimentation de Galilée va aussi un peu dans ce sens. C'est vrai parce que ça se vérifie dans l'expérimentation. Et on l'a transcrit au bout d'un moment, c'est vrai parce qu'on peut en tirer un résultat utile. Vous voyez, dans les deux cas, on a une structure de visibilité matérielle de la théorie immatérielle. Il n'en reste pas moins que pour Galilée et tous ses prédécesseurs, eh bien, on cherche à savoir pour savoir. Et on ne dit pas qu'il est inintéressant de savoir pour appliquer, on dit juste que ce n'est pas l'essence même du savoir, et tant mieux si parfois on applique. Mais ce n'est pas le principe même du savoir. Et ceux qui auraient cette vue sur le savoir vont très rapidement réduire d'abord les objets d'intérêt, puisqu'ils vont dire bah la métaphysique, la philosophie, l'histoire, à quoi bon, ça me sert à quoi? Bon. Et ensuite, à l'intérieur de ce qui les intéresse, ils vont réduire les possibilités de découverte. C'est Poincaré qui le dit dans La science et l'hypothèse. Car quand on cherche tout en général, ça ne veut pas dire sans rigueur, hein, mais qu'on s'intéresse à tout et qu'on veut comprendre le fondement des choses, ses extensions, etc., on entre dans des directions qu'on n'a pas forcément anticipées. Quand vous dites, moi, je veux un logiciel encore plus rapide pour faire des millions dans du trading à la vitesse de la lumière, et que vous commencez à travailler vos fibres optiques pour que ça aille plus vite, vous ne regardez pas la lumière en général, ce qui pourrait vous donner ensuite des idées d'application. Vous regardez la lumière juste sous l'angle de l'accélération et de la communication d'information, et même pour ça, vous restreignez le faisceau de vos découvertes possibles. Donc, une recherche purement intéressée est une recherche qui se tire deux fois une balle dans le pied. C'est ce que nous dit Poincaré. Et il s'y connaissait en recherche. Et donc, quand vous avez des gens qui disent, nous, on veut bien financer des recherches, mais faut qu'il y ait des résultats, alors déjà, bon, vous pouvez leur dire, ok, vous pouvez arrêter de parler d'ailleurs. Plus rapide, parce que mesurer la distance infinie de cette théologie impossible. Donc là, on a un problème. Et par ailleurs, quand quelqu'un vous dit moi, j'ai fait des sciences parce que je voulais être utile, là aussi, vous sentez que c'est la culture de l'ingénieur de base, et même sous la base et sous la base. Hein. C'est un peu la caricature. Je dis pas que c'est nécessaire, mais on en voit parfois du geek, vous savez, ingénieur informaticien. Dont l'univers s'est réduit ou plutôt dont, devrais-je dire, l'inquiétude métaphysique s'est réduite à Windows 2019 est-il plus puissant que Windows 2018? C'est un peu restreint comme ouverture. Attention, j'ai pas dit que l'informatique menait à ça, mais on peut trouver des gens qui, étant déjà pas très ouverts d'esprit, ont cru que l'informatique suffisait à l'existence et n'ont pas cherché l'ouverture. Après, si vous, par exemple, vous êtes chercheur en électronique, domaine apparemment appliqué, mais que vous êtes un vrai chercheur en vous appliquant à la matière de l'électricité qui parcourt des circuits, etc., eh bien, il y a un moment où vous allez tomber sur des vrais problèmes de physique fondamentale. Et donc, ce n'est pas l'objet informatique ou l'objet électronique qui arrête l'investigation, c'est la manière dont vous y allez qui est restrictive. D'accord? Oui, Noé. Pas compris. Ne sera pas in fine.
Dans la logique du savoir pour le savoir, c'est la manière plus efficace de trouver des choses.
Bah, il faut. C'est une bonne question. Est-ce que pour être utile, il ne faut pas d'abord chercher à être inutile? Si j'ai bien compris votre question. Je pense que dans votre question, il y en a encore une autre. Elle est bien bienvenue, cette question. L'autre question à laquelle je pense, c'est est-ce qu'il faut chercher à être utile? Voilà. C'est ça le présupposé dans votre question. Et cette valeur d'utilité, elle aussi, elle est très récente. Une chose est de dire je veux rendre service à mon prochain, une autre est de vouloir être utile tout court, vous voyez? Parce que dans l'utilitarisme de Bentham, c'est pas autrui le problème, c'est ma pomme. Et vous voyez que la notion d'utilité, elle peut aussi être considérée comme très égoïste, en fait. Donc, c'est un gros débat, hein. C'est énorme la question que vous soulevez là. Alors, si je la restreins un peu pour ne pas trop aller trop loin, est-ce que pour être vraiment utile, il ne faudrait pas. Moi, je pense que oui, il faut chercher à être inutile pour être vraiment utile, mais dans ce cas-là, vous engagez une définition de l'utilité véritable. Parce que l'utilité véritable, ça va être par exemple de participer au projet de connaissances infinies, ce qui n'est pas du tout la définition de l'utilité actuelle, hein. L'utilité actuelle, c'est un truc que je peux mettre dans ma courbe d'utilité et qui va être agrégé aux autres courbes d'utilité. Bref, c'est ce qui va être populaire. Voilà. Et la connaissance des fondements des mathématiques dans la géométrie de Riemann, l'humanité s'en fout, hein. Globalement, il faut être honnête. Donc, on voit qu'en vous répondant oui, j'engage une définition de l'utile qui n'est déjà plus l'utilité de l'immédiat. Maintenant, si on veut vraiment l'utilité de l'immédiat, est-ce qu'on peut quand même répondre oui à cette question? Est-ce que pour être utile immédiatement selon des critères contingents et populaires du moment, il faut chercher à être inutile? Là, ça devient délicat. À très court terme, je dirais non. À long terme, plutôt oui. Puisque même les grands chercheurs reconnaissent que leur recherche sur le moment ne peuvent sans doute pas être appliquées, mais peut-être un jour. Voilà. Donc, même si vraiment on était intéressé par on est malade, on veut vite le médicament et tout, là je comprends, hein, les situations d'urgence, hein, j'ai fait une sorte de grosse étiquette de l'utilité immédiate, mais il y a des urgences, je ne dis pas le contraire. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire sur le court terme non, le très court terme, mais sur le long terme oui, en vertu de l'argument de Poincaré. Parce que vous allez cultiver des directions dont vous ne pouvez jamais savoir où elles vont vous mener. La réflexion d'Einstein, par exemple, sur le rapport de l'énergie et de la matière, sur le moment, n'a aucune application. Aucune. Même pas la bombe atomique, c'est pas E égale MC2, la bombe atomique, c'est encore autre chose, c'est lié, mais c'est pas directement ça. En revanche, elle peut un jour, on l'a pas encore, mais elle peut un jour déboucher sur la fission et même la fusion. Et alors là c'est le jackpot, vous mettez n'importe quel pot de banane comme dans Retour vers le futur dans le réservoir et vous pouvez trouver vos 20, non. 2,21 gigawatts, merci beaucoup, qui est l'énergie nécessaire pour voyager dans le temps. D'où la réflexion du doc. 2,21 gigawatts. Je veux bien croire que dans le futur, on peut aller dans n'importe quelle droguerie pour trouver de la matière nucléaire, mais pas dans les années 50. Bon, bref. Il n'y a pas de fans de science-fiction ici? Oh, bah voilà. Merci de m'avoir remémoré le chiffre que j'avais un peu oublié. Oui, il y avait une question, je vous en prie. Pour l'utilité? C'était pas pour la philosophie que je répondais là, c'était pour le savoir en général, hein. Ah, d'accord. Alors, donc si j'essaie de reformuler votre question, ça veut dire, est-ce que dans le domaine politique, il faut aussi chercher à ne pas être utile pour finalement être vraiment utile, c'est ça? D'accord. Là aussi, je pense que le critère de l'urgence fonctionnerait, c'est-à-dire s'il y a le feu, bon, on ne va pas réfléchir sur la nature du feu pendant 1000 ans avant de l'éteindre. En revanche, il me semble que dans la théorie politique, la philosophie politique, mais aussi la sociologie politique ou d'autres types de réflexions de ce type, il y a des réflexions sur l'histoire qui ne débouchent pas sur des applications immédiates. Mais qui peuvent être éclairantes. Alors, si vous prenez Machiavel, par exemple, apparemment, c'est un but assez précis, le prince. C'est comment stabiliser l'État italien, enfin, la principauté à laquelle il appartient à ce moment-là. Et il invite, alors ça, c'est plutôt dans les histoires florentines, il invite à réfléchir à l'histoire, non pas parce qu'elle donne des idées claires sur ce qui arrivera, puisque l'histoire ne se répète jamais, mais parce qu'elle rend sensible justement à la singularité des époques, et donc à la singularité du présent. Alors, de ce point de vue-là, une réflexion intéressée peut mener quand même à des résultats mais même avec Machiavel, qui pourtant paraît très préoccupé de pragmatisme, j'aurais tendance à dire que il faut que le futur prince ait travaillé son histoire d'une façon désintéressée pour que des cas apparemment très lointains de la situation présente puissent éventuellement un jour l'éclairer sur les décisions à prendre. Parce que si vous vous dites, est-ce que j'apprends ça parce que ça peut me servir? Vous commencez à faire une sélection très arbitraire au sein de l'histoire et vous ne vous préparez plus autant qu'il le faudrait à la singularité de toute situation historique. Donc je pense que même là, il faut une forme de désintéressement. Je ne cherche pas à vous vendre le désintéressement. D'abord, vous l'avez déjà acheté, vous êtes là. Bon, alors peut-être vous allez me dire, oui, je suis là pour une école de commerce. Bon, déjà, si c'était que pour une école de commerce. Tactiquement, vous auriez mieux fait de faire une EC, j'ai tendance à dire. Bon, ça c'est plutôt mes statistiques personnelles. Bah, bon, Il me semble que c'est plus facile, je crois, hein, on le vérifie, on le regrette, mais c'est comme ça, d'intégrer une parisienne par une C que par une BL. Mais après, c'est pas juste, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez besoin en BL d'une souplesse dans la variété de vos matières qui est peut-être moins dure en EC, me semble-t-il. Et puis enfin, vos concours vous donnent d'autres options que les écoles de commerce. Donc si vraiment c'est que pour une école de commerce que vous êtes là, c'est pas idiot, mais c'est un peu restrictif par rapport à l'ouverture de la section. Donc il me semble que de ce point de vue-là, vous avez quand même déjà un peu affirmé votre goût pour une connaissance désintéressée. Maintenant, on pourrait toujours craindre qu'un professeur de philosophie milite pour le désintéressement dans la mesure où sa matière est profondément inutile et donc qu'il justifie ainsi une position injustifiable. Sauf que d'abord, le désintéressement n'est pas propre à la philosophie, il est propre à des disciplines qui ont des résultats apparemment plus avérés, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la sociologie, l'anthropologie. Et ensuite, ce n'est pas une justification, au présent, c'est une observation du mouvement de l'histoire. Ces disciplines ont toujours été désintéressées. Et il est exceptionnel de vouloir les justifier par des arguments intéressés. Ça, c'est très récent. Ce n'est pas représentatif de l'histoire des sciences. Je vous rappelle que jusqu'au début du 19e siècle, ça commence avec les Lumières en vérité, tout travail utile était considéré comme dégradant. Voilà. Vous étiez dans le top si vous faisiez des activités contemplatives, la théologie, la philosophie, la mathématique, et attention, pas n'importe laquelle, pas celle qui est opératoire. Donc le calcul, non. Non. La réflexion sur les axiomes, oui, ça c'est bien. Mais le calcul, genre je te décline mon truc pour arriver au résultat, non. Ça c'est. Saint Thomas dit par exemple que c'est un milieu entre le contemplatif et quelque chose de plus pratique. Voilà, il est un peu embêté pour classer ce type de mathématiques. Et j'ajoute, toujours pour vous faire le tableau du top de la position sociale du Moyen-Âge, par exemple, que vous étiez d'autant mieux à le faire que vous étiez seul. Ça aussi, c'est une chose très nouvelle, l'idée que la solitude est un drame. Alors, pareil, quelle solitude, pour qui, dans quelles circonstances, il faudrait préciser. Mais avant, c'était un luxe de pouvoir être seul. Ça voulait dire qu'on avait matériellement de quoi s'assumer et qu'on n'était pas obligé de vivre un peu serré avec les autres qui perturbent votre contemplation, vous voyez? Aujourd'hui, ah, c'est le drame absolu, tu n'as pas 3000 amis Facebook, mais qui es-tu? Comment peux-tu survivre? Voilà. Le célibat est un peu moins tabou depuis quelques années parce qu'il s'est généralisé, tout simplement. Enfin, il est devenu moins marginal. Je ne dis pas généralisé, pas une majorité, mais il n'en reste pas moins que la solitude est toujours présentée comme un écueil en ce moment. J'ai l'impression. Alors que. Bon, c'est pas. Heureusement, les moines, les frères et les sœurs se sont pas dit vite que je change de vocation, je veux pas être seul, non. Parce que voilà. Et tout ça, vous voyez, c'est comme si on voulait à rebours relire le portrait du scientifique, du sage, du contemplatif, en faisant quelque chose d'imparfait. Et heureusement, par une activité pratique, utile, intéressée et profitable en termes d'argent, eh bien. On va enfin donner à ces activités la dimension qu'elles ont toujours recherchée. Pas du tout. Du point de vue statistique, c'est notre époque qui est très exceptionnelle de ce point de vue-là. Donc que l'arbre ne cache pas la forêt. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Alors, je voudrais terminer par, j'en ai pour 2 minutes, une forme d'évaluation critique en posant les deux questions suivantes. Tout d'abord, n'est-ce pas une vue trop partielle? Au sens où Husserl propose ici des critères de définition de l'Europe qui sont justifiés et qui sont sans doute parmi les plus apparents dans cette histoire de l'Europe, mais qui ne recouvrent peut-être pas tout ce que contient l'Europe, au point qu'on puisse assigner des exceptions dans l'histoire de l'humanité. Husserl donne des exemples d'Européens en dehors de l'Europe parce qu'ils ont bénéficié de cette culture européenne, les Américains, d'extra-européens dans l'Europe parce qu'ils n'ont pas hérité de cette culture, les Indiens des foires ou les Tziganes, mais ils ne donnent pas d'exemple de gens qui ont pris exactement le même projet, qui n'ont jamais hérité de la culture européenne et qui pourtant, de ce point de vue-là, seraient aussi européens. Exemple que j'aime beaucoup, les Mayas. Voilà. Voilà les Européens de l'Amérique latine qui n'ont pas bénéficié, enfin, autant qu'on sache, d'un petit voyage d'Aristote de l'époque qui serait venu leur expliquer comment s'y prendre. Il semble qu'ils aient développé par eux-mêmes cette culture-là. Et ça n'a pas l'air d'être par contagion parce que les Indiens d'Amérique du Nord n'ont pas développé ça de la même façon, et les Aztèques et les Incas, pas autant. Donc c'est vraiment l'exception Maya, hein, qui de ce point de vue-là est assez fascinante. Deuxième question ou approche critique, on voit que cette définition de l'Europe et de la phénoménologie au passage dépend d'une définition de la raison. Et la difficulté, c'est que tous les auteurs de philosophie ont une définition un peu différente de la raison. Donc on pourrait peut-être ici se demander si la raison est définie d'une façon synthétique. La seule chose qu'on peut reconnaître et qui là est tout à fait transversale à tous les auteurs, c'est que cette raison a les deux caractéristiques suivantes. Elle vise toujours à remonter plus haut dans les fondements. Ça, je connais aucun auteur qui dirait le contraire. Et deuxièmement, elle est réflexive. Puisqu'on remonte vers les fondements, on s'interroge sur sa propre identité. Maintenant, vous voyez, on parle projet spirituel, et c'est un auteur de la phénoménologie qui vous donne cette définition de la raison. Il y aurait peut-être ici à être un peu plus précis. Ce qu'on peut en tout cas en retenir, et c'est là-dessus qu'on redémarrera la fois prochaine, c'est que la phénoménologie husserlienne, elle est européenne, c'est-à-dire elle est grecque. Et c'est pourquoi la prochaine fois, nous réfléchirons ensemble sur les fondements de la mathématique grecque. Avez-vous une dernière question? Non, c'est bon. Alors merci.